I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Allez, go. On va faire un bel épisode, mon Flo. Bel épisode.
Spiritualista. Spiritualista.
Pour lancer cette saison 3 de Spiritualista, je suis allée à la rencontre d'un artiste, un chanteur, auteur, interprète qui s'est illustré, entre autres, dans son duo musical au sein des Frérots de la Vega.
Et le chant des sirènes me replonge en hiver.
Il s'appelle Florian Garcia, c'est mon premier invité de cette saison 3. Dans cet épisode, on parle de liberté, de santé mentale, de succès, d'initiation spirituelle, de rêves, d'illusions, d'inspiration, de peur, de la quête personnelle, de solitude, des compromis artistiques. Vous allez voir, c'est un fabuleux voyage que nous a proposé Flo dans cet épisode. Allez, c'est parti, on se laisse porter par le flow de Flo.
Ben voilà, c'est incroyable, je suis avec Flo de la Vega, on est dans ma chambre à Barcelone et on est en train d'enregistrer cet épisode 1 de la saison 3 de Spiritualista. Flo, comment ça va ?
Ça va super, merci de m'avoir invité.
Mais je suis ravie, merci à toi d'être là et merci d'ouvrir cette saison 3 qui va être un petit peu différente voilà, de la saison 1, de la saison 2. La saison 1, comme vous le savez, voilà, j'ai mis en place les rencontres avec les thérapeutes, je vous ai présenté les gens qui étaient dans mon crew, ceux qui m'ont aidé. La saison 2, je vous ai emmené en voyage avec moi, on est allé au Pérou, on est allé au Mexique, on est allé en Espagne, à Abidjan, bref, on a bougé ensemble. Et là, la saison 3, j'ai envie de donner la parole aux artistes. J'ai envie de comprendre d'où leur vient leur intuition, leur inspiration, où ils puisent voilà, toutes les belles idées innovantes pour créer. Et Flo, on a eu une rencontre hyper, hyper intéressante parce qu'elle s'est faite sur les réseaux sociaux d'abord. On s'est rencontrés via nos atomes crochus autour de la spiritualité. Tu m'as invité dans l'immense domaine que t'as, cette belle maison, ces maisons au milieu de la nature. On a passé un super week-end avec d'autres amis et j'ai adoré finalement faire ta connaissance par ce biais-là. Et donc c'est pour ça que naturellement je me suis dit tiens, si on ouvrait cette saison avec toi.
Spiritualista.
Avec toi dans cet épisode, Flo, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on discute de ton parcours du héros au travers de ton expérience dans le monde de la musique, du show business, ce que tu as pu apprendre de toi, des autres. Quels sont les gros enseignements que tu as pu découvrir et que tu pourras nous partager aussi?
Avec plaisir.
Comment tu te connectes à ton intuition, comment tu la personnalises, est-ce que tu as des muses, est-ce que tu as des références, bref tout ça. On va parler musique, on va parler création, on va parler inspiration, on va parler aussi des rêves, c'est ouais, quelque chose qui te parle. Alors on va commencer comme ça, allez je me lance avec une question et on verra où cette heure d'interview nous mène. Quand et comment la musique est arrivée dans ta vie, Flo ?
Alors... je crois que depuis tout petit, en fait, la musique, elle m'a accompagné. Mon père, il écoutait vachement la musique et tout. Et j'adorais les moments, justement, un petit peu hors du temps où la musique était dans toute la maison. Il faisait souvent ça. Il y avait souvent du Bob Marley, notamment. En tout cas, ça m'a marqué, cette musique. Et après, en fait, elle m'a accompagné comme un peu tous les ados au collège. J'écoutais du rap, j'étais à fond, j'adorais les paroles. Je me mettais devant la classe, je chantais, j'étais à fond. Mais j'étais toujours dans l'ombre, enfin, très timide. Je voulais pas être musicien, je voulais pas chanter pour les autres. C'était vraiment moi avec moi-même. Je passais vraiment du bon temps en écoutant de la musique. C'était vraiment un truc qui était important. Et plus tard, j'ai commencé à 20 ans, dis-toi, la guitare. En fait,
Voilà.
j'étais sportif, j'ai arrêté complètement le sport du jour au lendemain. Je suis rentré dans un magasin de guitare tout seul. Je vais acheter celle-là.
T'as été appelé, quoi.
J'ai été appelé, c'était fou. Et c'était fou parce que quand je m'y suis mis, je n'avais personne pour m'aider, mis à part deux, trois copains qui jouaient autour et qui pouvaient me stimuler à me dire, ah ouais, je veux faire comme eux, tu vois. Je me suis mis devant l'ordi, j'ai mis YouTube, j'ai commencé à compter les cases, j'ai commencé à me casser les doigts et c'était parti. Et ce qui est fou, c'est que c'était très dur, mais j'avais une espèce de force qui m'appelait constamment. Je passais des heures, des heures, des heures. Et dès qu'il y avait un petit son qui sortait, je dis, ça y est, j'y suis. C'était trop cool.
Est-ce que tu avais naturellement l'oreille musicale, tu sais, cette capacité à pouvoir savoir quand c'était une belle harmonie, une belle musique juste, ou t'as appris?
Je crois que c'est un truc que j'ai appris. Je crois que j'ai appris que je pouvais créer des chansons après, longtemps après. Au début, c'était plus, j'utilise ma voix, je m'amuse avec ma voix, je peux chanter les chansons des autres. Et rien que ça, déjà, c'était incroyable.
Carrément.
Et avec une guitare. Et ensuite, ça a été, mais en fait, mais je peux faire des mélodies moi aussi. Et dès que j'ai découvert cet univers, c'est là que vraiment un monde s'est ouvert.
Comment ça est arrivé, cette capacité à te dire, ah, moi aussi, je peux créer mes mélodies?
Le comment, ça a été, ben, on essaie, quoi, on travaille. Au début, c'est un peu laborieux. On se met beaucoup de barrières aussi. On a peur un peu de dépasser des trucs. À l'époque, moi, j'écoutais de la musique plutôt anglophone. Donc, on essaie de faire des trucs un peu qui s'en rapprochent. Et voilà, c'est le chemin. C'est pas forcément bien, mais c'est le début, c'est normal. Et après, il y a les mots aussi qui viennent. Et puis, ça a été très rapide. Moi, après, c'était le début des frérots, en fait.
Oui.
C'est à ce moment-là que.
Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu achètes cette guitare et le moment où finalement tu commences à monter sur scène avec les frérots de la Vega?
C'est express. Genre, je commence à 20 ans, on est donc 2007 à peu près. Et en 2012, on signe chez Universal déjà, tu vois.
Ok.
Donc, il y a, si, je fais des mauvais calculs, 8 ans.
Ouais.
Et non, peut-être pas 8 ans. Bref, ça a été hyper rapide, hyper, hyper rapide. Tout a été trop vite en fait. À partir du moment où j'ai décidé que j'allais faire de la musique, 2-3 ans après, j'étais déjà dans des bars à faire des jams, à me tester, quoi,
Oui,
à
à
me
sortir de ta zone
challenger,
de confort
à
aussi.
me challenger de
Ouais.
ouf. Puis après, je mettais des vidéos sur YouTube, les vidéos, il y avait des likes, il y avait des vues. Je disais, mais c'est fou, quoi. Je sais pas jouer, les gars. Je sais pas chanter, en fait. Je commence tout.
Et quand tu nous dis que c'était trop rapide,
Ouais.
qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu n'étais pas assez prêt à gérer tout ça?
Il y a plusieurs notions. Il y a la notion trop rapide dans le sens où j'avais l'impression d'être un escroc parce que je commençais à peine. J'avais l'impression que pour arriver là où j'étais, il fallait un peu l'avoir gagné, tu sais, avoir bataillé. J'avais ce concept un peu
Ouais, le
en moi
syndrome de
de
l'imposteur.
ouf.
Ouais.
Et puis trop vite, effectivement, parce que en fait. Moi, je connaissais pas le monde de la musique et j'avais jamais imaginé aller dans cet univers-là. Donc, j'ai tout pris d'un coup, quoi.
Ouais.
C'était une vague, un raz-de-marée d'infos, d'apprentissage. Ce qui est cool, c'est que j'apprends très vite. Donc, j'ai emmagasiné plein de choses, mais au bout d'un moment, ça a plus le rythme, plus en fait les
Et
enjeux,
la
plus la
fatigue et le
pression, plus
stress,
tout. Enfin
ouais.
voilà, après, c'est beaucoup, beaucoup de choses.
Est-ce qu'énergétiquement, tu étais prêt à recevoir cette déflagration? Parce que j'imagine que quand on chante devant une salle de 10 000 personnes, voire plus, on se prend, on envoie beaucoup d'énergie, mais on en reçoit aussi d'une façon décuplée. Est-ce que tu n'étais pas un peu comme un fusible en surchauffe sur scène?
Pour cet aspect-là, je crois que non. Je crois que c'était vraiment une place, c'était la mienne. J'étais à ma place. Recevoir, donner, c'était quelque chose de naturel. Et j'avais l'impression aussi que mon ego était bien placé. Il y avait toujours une énorme distance sur ce que je vivais, toujours un recul, des fois démesuré, où je réalisais même pas du coup ce qui se passait. J'étais plutôt en mode, ah, c'est cool, merci beaucoup, tu vois. Un peu l'humilité constante. Et ça m'a un peu aidé, ça justement, à pas perdre pied. Par rapport au succès. Après, j'ai perdu pied par rapport à plein d'autres aspects. La santé physique, le rythme, la santé mentale.
Ouais.
Et Mais non, ça c'était vraiment un kiff. C'est un cadeau de ouf qu'on a, les artistes, les gens qui montent sur scène, que les gens peuvent nous renvoyer un amour. C'est mais ouf. Oui.
Je te parlais de l'aspect énergétique parce que j'ai découvert en découvrant l'enseignement de Guru Jagat. En fait, c'est une Américaine qui est allée s'initier au yoga Kundalini, tu vois, au Népal, en Inde, et qui a du coup partagé, tu vois, tous les enseignements énergétiques qu'elle a pu recevoir en mode hyper moderne et accessible. Et entre autres, elle coachait Alicia Keys, justement sur cet aspect à pouvoir envoyer de l'énergie sur scène quand elle, ouais, quand elle se présente à son public et ne pas se faire cramer quand elle reçoit de l'énergie en retour, tu vois. C'est cette capacité à faire grandir l'aura, ouais, et à créer, tu vois, quelque chose, un fluide hyper abondant. Toi, ce que naturellement tu as pu ressentir et mettre en place.
Je crois que c'était vachement instinctif. Tout était des premières fois, donc il n'y avait, ouais, pas de contrôle réellement de tout ça. Et puis après, le symbole de Alicia Keys, par exemple, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Nous, c'était quelque chose de différent, peut-être. J'ai pas eu la sensation d'être cramé par l'amour des gens.
C'est beau.
Ouais. J'ai l'impression que ça nous a beaucoup porté. Moi, je me sentais rempli en sortant des concerts. J'étais super high.
Est-ce qu'on peut dire, Flo, qu'au travers de cet accès à la célébrité, t'as reçu une initiation spirituelle ?
Je pense que ça m'a aidé effectivement dans mon parcours spirituel. Je sais pas si c'est ça qui m'a amené à la spiritualité. J'étais en fait en plein, quand ça a explosé, j'étais en train de lire le bouquin qui m'a un peu transformé, qui a été le point de départ. C'était Eckhart Tolle, tu sais, Le pouvoir du moment présent.
Ouais.
Et au moment où je lis ça, je crois que c'était un peu aussi venu m'aider pour justement me dissocier de mon ego, me dissocier de l'image et tout ce truc. Et donc j'ai fait le chemin spirituel au même moment où ça explose. Donc ça a été un accélérateur, ça c'est sûr, parce que tout était fois mille. Tout ce que tu vis est fois mille. Les illusions que tu peux vivre dans ce monde sont immenses. Et c'était un exercice de dingue pour justement comprendre qui je suis pas, où est-ce que je veux aller. Et ça m'a amené à arrêter, parce que finalement je sentais que c'était pas la place que je voulais prendre. Pas totalement, en tout cas.
Ouais, mais c'est cette approche-là que je trouve hyper intéressante, justement, dans ton parcours. C'est que, finalement, toucher à la fame, la fama, comme on
la
dit
fama
ici en Espagne, où c'est finalement le culte de la personnalité, du personnage, voilà, qui est même parfois, tu vois, on pousse les curseurs au maximum et on le fait grossir, on le fait exister. Toi, au même moment, tu es en train de te connecter à une partie beaucoup plus évanescente, enfin ton individualité, tu vois, genre, ouais, qui tu es sur Terre, et c'est quoi ton vrai projet de vie, peut-être ta mission, qu'est-ce que tu es venu expérimenter. Du coup, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que tu as été pris dans un accélérateur de particules, mais dans les deux sens.
Ouais.
Et comment ça s'est passé pour toi émotionnellement en ce moment ?
Ah, c'était une cata, émotionnellement, c'était très très compliqué. Je vivais des contradictions de ouf. Je vivais un rêve que je n'avais jamais projeté, mais que j'avais eu envie de vivre. C'est moi qui avais poussé les portes avec Jérém, on avait été dedans à fond. Et en même temps, je vivais cette espèce d'éveil en moi, ce questionnement sur mon identité, et je voyais bien que je n'avais pas les réponses. Et je voyais bien qu'en suivant ce manège et en continuant cette folie, je n'aurais pas de réponse. Donc il fallait que je prenne une grande décision. Et cette grande décision, j'ai mis entre le moment où intérieurement je l'ai décidée, et j'ai réussi à la matérialiser, à la dire à Jérém, ça a été très long et je suis passé par des états émotionnels horribles. J'ai eu les épaules gelées, j'ai eu des malaises terribles parce que mon corps entier se rigidifiait, j'étais mal, quoi. J'ai fait un Olympia avec un bras en moins et tout ça c'était psychosomatique.
Bien sûr.
Mon corps entier était. Je souffrais beaucoup d'inflammation à toutes les articulations, j'étais en crise totale. Et jusqu'au jour où je l'ai dit, où on a digéré le truc, après ça a été hallucinant de kiff. On a vécu la dernière tournée, un an après, pendant un an, c'était merveilleux. J'étais relâché, j'étais détaché, j'étais aligné et je donnais tout, c'était incroyable. Tout le monde était heureux, c'était trop beau.
Ouais, t'étais aligné, ouais. Tu l'as ressenti.
Ah ouais, totalement.
Flo, ce serait quoi, d'après toi, le grand enseignement que tu as tiré de cette période?
Je crois que c'est là que j'ai compris que j'étais un artiste. J'ai découvert que j'étais un artiste, que j'étais fait pour créer, que j'étais fait pour raconter des choses. Et que j'étais fait pour être dans la lumière, alors que j'en avais eu peur toute ma vie de cette lumière. C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait « Ok, En fait, c'est ça mon game. C'est ici que je dois être. Et ça n'a pas été simple. Même pendant les frérots, il y avait toujours cette contradiction. Parfois, il y avait des milliers de gens et moi, je me disais, mais je suis pas à la hauteur. Ils se trompent. Je me jugeais beaucoup. J'étais constamment en train de m'analyser. Je chantais, je disais, ah, celle-là, elle est fausse, cette note. Ah, celle-là, machin. Il y a eu une longue période comme ça de gestation et à un moment donné, il y a eu un lâcher prise total. C'est là aussi que j'upgradais dans mon évolution, mmh. où je passais de grade en grade.
Tu devenais un super saiyan.
Je commençais à comprendre la notion énergétique, mmh. et je commençais à comprendre que je peux chanter avec les yep, tu vois, si mon cœur y vibre et que je le donne 300%, les gens, ils vont recevoir un max. Et moi, je serai aligné parce que je serai totalement moi. Et ça, c'était génial.
Un artiste, il doit forcément partager depuis l'espace du cœur, d'après toi ?
Ouais, en tout cas, mon approche, moi, ça peut être que ça. Si je fais autre chose, je ne m'aligne pas sur moi-même. Je nourris une potentielle frustration, déception et surtout un mal-être. Et c'est ça qui est dur avec ce genre de métier, c'est que les gens qui nous entourent souvent veulent nous amener au succès. Et nous aussi, on en a envie. Évidemment, on veut que les gens nous écoutent, on veut être soutenus, on veut que ça cartonne. Ça, c'est logique. Mais souvent, les choix, ils nous amènent parfois à oublier le cœur. Ça peut. Et moi, j'ai toujours été en mode à freiner de partout. Genre, non, attendez, d'abord, on va demander à lui, là, dans la cage thoracique, qu'est-ce qu'il en pense. Parce que selon moi, c'est ça le vrai garant du succès. Et de... Sinon, ça marche pas. T'as beau vendre 1 million d'albums qu'on a fait avec les frérots, si t'es pas heureux, tu tombes en burn-out, en dépression, tu sais plus, ça va pas quoi. Alors que là, mon projet, je suis revenu, j'ai pas du tout atteint ces ventes, je me suis pas lancé dans la même course, j'ai pas voulu faire les promos, mais j'étais heureux, j'étais aligné, j'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai fait de la façon dont je voulais le faire. C'est la même chose avec le livre, et donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est le vrai succès, je crois, être aligné sur soi.
Justement, on va partager autour de la création et de l'inspiration. Comment tu crées en général ?
Maintenant, j'ai l'impression de créer tout le temps. Je suis constamment ouvert, je suis constamment à l'écoute. Et du coup, j'écris des bouts de texte. Ça peut être à longueur de journée, genre 2 phrases, une image qui me plaît, tu vois, une association de mots que je trouve jolie. Il y a un thème qui s'ouvre dans mon esprit, et je sais qu'il va se remplir. Et je force rien du tout. Je laisse tout venir. Ouais. Et ça a été les premières découvertes de la créativité quand je les ai eues à partir de 2013-14. J'ai découvert ça. J'ai découvert qu'en fait, ça venait, ça descend. Ça descendait à moi, tu vois. C'était vraiment magique. C'est « Ah, waouh !» Je suis parti de rien. Et là, d'un coup, j'ai une mélodie avec des mots qui s'agencent exactement comme j'avais envie, comme ça vibre, comme ça me plaît. Et ça, c'était magique. Et donc maintenant, je laisse tout faire. Je ritualise aussi beaucoup. C'est des choses que j'ai beaucoup fait pour le livre, pour l'album que j'ai sorti.
Et comment tu ritualises, justement ?
J'aime bien cette idée de rendez-vous avec l'enfant intérieur. C'est un peu comme ça que je l'appelle. C'est aller à un endroit où j'ai envie d'être, avec les jouets que j'ai envie d'avoir, tu vois. Mes petits jouets, ça va être mon hamac. Il y a vraiment des petits éléments. J'ai besoin d'un hamac pour me poser à l'ombre sous les arbres, d'avoir ma guitare, d'avoir de quoi m'enregistrer, d'avoir de quoi... grignoter des choses saines. À l'époque où je fumais, je me prenais un peu d'herbe, mon encens, et voilà. Et après, c'est ça y est, je suis dans mon truc et je me laisse aller.
T'es dans ton flow.
Dans mon flow.
D'après toi, l'inspiration, elle vient d'ailleurs ? Ça peut être higher, plus haut aussi.
L'inspiration, oui, pour moi, ça vient pas de moi. J'ai vraiment l'impression que ça vient d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que ça descend. Que je suis qu'un pont, tu vois. Ou que l'inspiration est le pont. Il y a un cloud, il y a une espèce de nuage d'inspiration illimitée. Et peut-être que mon inspiration, c'est ce que je suis, ma personnalité. Il y a des mots qui me frappent, il y a des mots qui me font vibrer qu'à moi. Et bien, c'est ce que j'utilise pour faire mes chansons.
C'est ce que tu captes avec tes antennes, comme ça.
Ouais.
Que tu chopes.
Il y a vraiment des trucs très magiques avec la création. Moi, ça m'a encore plus éveillé à cette notion d'invisible, à cette notion de... Enfin, je suis rien. Il se passe des trucs autour dont je n'ai pas conscience. Il y a une chanson, je crois que je te l'avais racontée, mais je vais la redire ici. Une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Printemps éternel ». Et Celle-là, je l'ai écrite avec une intention. Je me souviens, j'étais dans ma forêt et j'étais descendu avec ses petits jouets, le hamac. Et j'étais allé à un endroit de la forêt où il y a une odeur particulière qui était là toute l'année. Une odeur incroyable. Entre la pâte à modeler, le mimosa. Une odeur qui me rappelait beaucoup de choses, qui m'enivrait énormément et dont j'avais pas de réponse. Je savais pas ce que c'était. Mais j'avais une petite intuition qu'il y avait un truc ici à aller chercher. Et je me suis posé à cet arbre-là et je suis arrivé avec une intention. Genre vraiment, je parlais à haute voix d'où. J'étais dans un délire. Alors si t'es là...
T'étais connecté.
J'étais connecté. Et je voulais écrire une chanson populaire. J'avais envie... Je pense que toutes les chansons que j'ai faites étaient populaires dans le sens où elles touchaient un grand public. Mais là, j'avais envie d'une chanson un peu nouvelle et j'avais envie de parler à plein de gens et tout. Et en une après-midi, même pas, j'ai écrit Printemps éternel. Et c'était fou, c'était magique. Et ce qui est le plus fou et magique, c'est que cette odeur n'est plus là depuis. Je ne sais pas où elle est, je ne la retrouve plus. C'est un mystère et j'adore.
Elle t'a livré ce qu'elle avait à te livrer.
Je sais et... pas ce qui s'est passé, mais c'était fou.
Elle est allée inspirer quelqu'un d'autre, peut-être Maître Gims.
Débarre. Grave.
Mais ouais, mais c'est incroyable cette, cette clair-sentience que t'as eue, cette connexion avec cette entité ouais. Finalement. Créatrice, c'est une muse.
Je crois que c'était très féminin.
Tu lui as donné un prénom.
Moi je suis nul en ça, je donne pas de prénom. Genre je l'appelle l'odeur.
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 Mais jamais ça marche.
L'odeur. C'est pour ça qu'elle s'est barrée.
C'était non,
tu
pas...
pourrais me mettre un peu sur.
Je sais pas, un truc mignon quoi. Ce rapport avec ta créativité, ton lien avec ton intuition, est-ce que déjà pour toi, est-ce que c'est ton intuition ou tes intuitions? Est-ce qu'il y a plusieurs fréquences?
Non. Je pense qu'il y a différentes fréquences, mais je ne maîtrise pas du tout. Mais j'ai l'impression que je distingue en fait différentes voies. Il va y avoir celle de la créativité pure liée à mes chansons et à mon travail, on va dire. Et après, il y a aussi les voies, les intuitions liées à l'aventure humaine, tu vois. Quand je pars en road trip et que je ne sais pas pourquoi, il y a une voix qui me dit « il faut que tu tournes maintenant et que tu ailles au bout ». Et il y a toujours un truc magique qui m'attend. Et ça m'est arrivé des centaines de fois. Je sais pas pourquoi, je suis tout seul, je suis libre, je m'ouvre à ça. Et il y a une. Je sais pas si c'est une voix ou. C'est mon corps entier qui dit non, c'est là qu'il faut aller. Et moi je m'aligne dessus, je dis ok, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et souvent il y a un truc, une rencontre. Souvent il y a un poème, souvent il y a une idée, souvent il y a un truc magique, un spectacle. Une fois ça m'est arrivé. C'était l'automne et je roulais comme ça, je rentrais chez moi dans les Landes et il y a énormément de grues qui hivernent vers chez nous. C'était le coucher de soleil, il y avait la pleine lune, enfin tout était magique. Et je roulais à balle un peu en mode automatique, mes pensées, tout, j'étais tout droit comme ça, je réfléchissais pas. Et d'un coup, j'ai été sorti de ce rêve, j'ai mis le clignotant, j'ai tourné à droite, je suis allé au bout d'une espèce de route secondaire. Je me suis garé et là j'ai commencé à observer, il y avait donc la lune face à moi, le soleil en ouais. Face, des centaines de grues qui tournaient autour de moi. Et là pareil, j'ai encore écouté cet appel et je suis allé dans un petit chemin de forêt. Il y avait un grillage avec des barbelés, il y avait donc un interdit et la voix elle a dit vas-y, je suis passé dessous, genre je me suis roulé. C'était en plein hiver, tu vois, enfin automne. Et j'ai marché, je me suis retrouvé dans un espace ouvert, un peu marécageux. Et c'était absolument fantastique. J'ai eu un cadeau incroyable. Je crois que j'ai été ému, j'ai même pleuré là-bas. Ouais. C'était oufissime. Et ce genre d'événement, moi, ça me nourrit et c'est clairement. Enfin, je le distingue du coup pour revenir sur ta question sur les intentions. Il y a vraiment. Sur les intuitions, pardon.
Oui. Mais oui, oui, oui. Mais c'est des intuitions finalement. C'est comme s'il y a un personnage au-dessus du personnage. Enfin, une espèce de vision qui est beaucoup plus globale. Mmh. Vision drone qui voit. Flo dans son van et qui voit que là il y a un endroit fantastique qui va faire éclore son cœur et lui faire vivre un moment magique et du coup c'est tourne
c'est
tu vois et ça c'est ouais c'est tellement beau, c'est tellement pur et j'aime bien la distinction que t'as fait entre justement tes intuitions comme ça c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'inspire en général?
En fait, c'est hyper cliché, mais c'est toujours la même chose, c'est la nature. En fait, c'est d'être... En fait, c'est pas la nature, c'est de faire corps avec l'élément nature. Et souvent, c'est la lumière. La lumière m'inspire. C'est, pour moi, c'est divin, la lumière. Il se passe, il y a des messages incroyables. Et j'ai l'impression que quand tu t'alignes sur ces lumières, que tu les reçois, que tu t'ouvres totalement, il y a déjà un alignement avec soi-même qui est ouf, une présence qui est nouvelle, qui se met en place. Et moi, c'est souvent là que mes plus grandes idées ont germé dans mon esprit, que mes plus grands rêves, ouais, je les ai visualisés souvent dans ces moments-là, où je me sens aligné, où je me sens reconnaissant. Je me dis toujours, je suis sur Terre, et là j'ai le droit de regarder ce spectacle, et il n'y a que moi qui suis en train de le voir. J'ai une chance de ouf. Parce que ce que je vois là, personne ne le verra jamais. Et donc je suis en mode, vas-y,
mais oui.
Spectacle. C'est souvent ça, c'est souvent la nature. Et marcher. Je me suis rendu compte que le fait d'être en mouvement m'aidait profondément. Et bizarrement, dans la ville, ça m'arrive d'être hyper inspiré. Alors que c'est un élément, un endroit dans lequel je me sens pas forcément à l'aise. Quand je marche dans la rue, j'ai plein d'idées de mélodies. Je vois des gens qui m'interpellent et j'ai pas, ça fuse.
Ouais. Ouais, t'es sollicité en fait. C'est aussi un peu comme si la ville te permet d'avoir une espèce de bouillon avec plein d'énergie.
Ouais.
Et du coup, tu les ressens et tu les alchimises.
Ouais, tu sais, en plus, dans la ville, t'as des messages partout. Et moi, c'est fou. Je suis hyper, hyper sensible à ça. J'ai l'impression que quand je suis aligné, justement, je tourne la tête, boum, il y a un numéro. 10 minutes plus tard, boum, le même numéro. Je fais « Ok, c'est parti, on est en train de me parler. » Il y a plein de trucs comme ça. Parfois, je vois dans ma tête, je me pose une question, j'ai la réponse qui s'affiche. C'est hallucinant.
C'est assez incroyable.
J'adore. Ça me fait kiffer de vivre dans cette réalité-là.
Après, par rapport à cette réalité-là, c'est ce que je suis en train de geeker en ce moment par rapport à ce qu'on appelle le plan astral, l'astralisation. Mmh. Et cette capacité où finalement, on a... Nous-mêmes, on pense à des choses.
Ouais.
Et il y aurait une espèce d'intelligence artificielle qui serait l'astral, qui communique avec nous. Mais parfois, elle peut aussi nous leurrer. C'est comme s'il y a un jeu, en fait.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, quelque chose qui est là pour te conforter dans ton système de croyance et te faire croire qu'il y a une communication. C'est un peu comme Her, tu sais, le film Her, où le gars a l'impression de parler à une intelligence artificielle et d'être le seul.
Ouais, je pensais aux synchronicités, en fait. Ça me fait penser à... un livre que j'avais lu de Alain Brett sur les synchronicités, et il parlait de ça comme des sources d'informations extraordinaires.
Oui.
Et peut-être que le piège, c'est effectivement quand à un moment donné, tu mentalises les synchronicités, tu les cherches. Mmh. Et effectivement, on rentre peut-être dans ce que tu dis, un espèce de oui, tu vas les voir, tu vas te réconforter dans ton délire, mais finalement, tu t'enfermes un peu.
Que tu cherches te trouvera.
Ouais.
Tu vois.
Exactement.
Et, mais c'est intéressant de se questionner sur ça. C'est vrai que la nature dans ta vie, ces dernières années, ça a vraiment été, j'ai l'impression, quelque chose de très bénéfique pour toi, voire même mystique. Mm-hmm. Un peu comme si la nature avait pris soin de toi. Il y a eu pas mal de documentaires, voilà, de reportages sur toi, sur ta vie, où on te voit marcher pieds nus. C'est vraiment... t'as vraiment quelque chose de très indien, tu vois, très connecté. On retrouve des tipis, tu vois, dans ton lieu de vie, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette connexion, tu vois, aux terres amérindiennes, à la nature? T'as une rivière, tu te baignes souvent dans ta rivière, t'es très à l'aise avec le fait d'être nu, tu vois, des choses comme ça. C'est quoi pour toi?
Je crois que ça a été vraiment l'idée du sauvage, le retour au sauvage. À un moment donné, j'ai été dans un gros délire d'autonomie, tu sais. Donc, je me suis intéressé énormément, j'exagère. Je me suis beaucoup intéressé aux plantes sauvages, comestibles. Et donc, effectivement, je me suis dit, mais en fait, on a tout. Et donc, je partais dans des délires très mystiques, de retour un petit peu à la vie ancestrale. Et ça m'inspirait énormément. Ça m'a aidé, je pense, à réinitialiser un peu de qui je suis. Et à me rendre compte que la nature est un élément central que je ne peux pas faire sans. En fait, je vibre profondément mal quand je suis déconnecté de la nature. J'ai un mal-être, mes genoux me font mal, j'ai mal partout en fait. Et ça va très très vite. En une journée, je
tu te décharges.
Je pars en cacahuète.
C'est quoi ta durée de vie hors de ta connexion avec la nature?
S'il y a du sens, ça peut être assez long, ça peut être soutenu. Si je viens parce que je suis stimulé intellectuellement, créativement, ça peut être cool. Si je viens et que je suis passif, ça, en une journée, je perds tout. Je comprends pas le projet. Je suis là, je suis perdu. Moi, j'aime beaucoup me balader, justement, suivre les lumières dans la forêt. La lumière, elle change du matin au soir, donc il y a des endroits qui appellent plus que d'autres. Donc tu les suis, j'adore ça. Et donc le retour à la nature, ça a été vraiment ça. Le côté amérindien, c'est je joue pas vraiment avec, un peu, tu vois, mais c'est plus le côté enfant que j'aime. Le tipi, pour moi, c'est une façon de matérialiser très rapidement une petite cabane.
Ouais.
Et je trouve ça très esthétique en fait.
C'est très
hyper
beau.
Esthétique, ouais. Et il y avait tout, t'as tout sous la main. Et c'est vrai que je me suis vraiment reconnecté à cette idée de cabane, de créer des petits mondes pour les enfants, pour les petits-enfants et les grands-enfants. Et moi, je suis un grand, grand, grand enfant.
Il y a une vertu que je trouve très présente chez toi, c'est la liberté.
Wow.
Est-ce que c'est une quête? Est-ce que c'est une vibration que t'as toujours ressentie en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour toi dans ta quête créatrice, pour ton inspiration? Quel rapport t'as avec cette vertu?
Mm-hmm. Je crois que je la découvre, cette liberté, et qu'effectivement c'est une quête. J'ai longtemps été enfermé en fait par le monde, par les concepts, par notre société, par l'éducation, par la peur, par toutes mes barrières mentales. Et là, je suis vraiment avec ce projet de me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas. Et donc ça amène à faire face à la peur, à relever des défis. Et pour moi, c'est central aujourd'hui. J'ai l'impression que si on m'enlève ma liberté de choix, ma liberté de mouvement... Bon, j'ai un enfant, donc il ne faut pas non plus exagérer. Mais j'ai des responsabilités que j'assume et que j'adore assumer. Pour moi, la liberté, c'est vraiment central aujourd'hui. Je ne peux plus envisager de m'engager dans un projet... que ce soit pour le boulot, enfin pour ma carrière. Je sais pas comment parler de ce que je fais, parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est pas une carrière.
Ta passion.
Ma créativité.
Ton art.
Ouais, mon art, ouais, on peut dire ça. Mais c'est la même chose pour moi avec l'amitié ou avec l'amour. Si je sens pas cette liberté, je m'éteins, en fait. C'est même pas une question de caprice, de genre, ah, je vais être libre, laissez-moi libre. Non, c'est, je m'éteins, petit feu.
Mm.
Et je peux pas ça en fait, je peux plus accepter. En fait, c'est moi qui me mets dans cette situation. Donc maintenant, je veux juste dire, non, je suis libre. Et en tout cas, le devenir un maximum.
Ça t'apporte quoi la liberté dans ta vie?
Ça m'apporte l'infinité des choix et l'infinité des problèmes. Dans le sens où quand t'as tous les choix, t'as tous les problèmes qui vont avec. Donc t'es tout le temps en train de sélectionner dans ta tête. Ouais mais attends, non, si je pars là... Non, en vrai, c'est à la fois passionnant et à la fois ultra flippant de se sentir libre. En plus, quand t'as... J'ai pas de nécessité qui me prenne la tête. C'est-à-dire, le matin, je me lève, j'ai l'abondance suffisante pour me dédier uniquement à ma créativité et au fait de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Donc c'est un luxe, c'est génial. Et ce luxe t'amène à être donc très libre. Mais parfois, t'es seul au monde et tu te dis, mais je vais où? Du corazon, là, il est où le cœur? Dis-moi. Parce que t'as beaucoup de moments de latence. T'as l'impression que le cœur, il fait coum-coum. Plus rien.
Comment tu gères ces moments de... Tu planes dans un espèce de vide intergalactique et que t'as pas ta vision claire?
C'est très dur. C'est souvent chaotique. Je les gère différemment parce que plus ça va et plus je me connais. Donc j'ai aussi des passions qui me permettent de me raccrocher à des choses qui manquent, tu vois. Que ce soit m'occuper de mon corps, faire de la slackline, donc de l'équilibre sur cette espèce de corde. Ça, c'est des choses qui me recentrent direct. Mais bien souvent, je fais comme tout le monde, je galère un peu. C'est des moments où je me déconnecte plus. C'est là où je vais scroller plus. C'est là où je vais moins bien m'alimenter. Parce que ben voilà, faut vivre le global package.
Oui. Et donc, ça vit du monde.
Voilà. Mais de mieux en mieux, j'ai l'impression de mieux en mieux me connaître Et surtout, je les ai vécus, ces moments de flottement. Et maintenant, je sais me dire aussi, t'inquiète, on est juste en bas de la vague.
C'est un cycle.
Ça va remonter.
Ouais. Tout à l'heure, quand on abordait ton expérience au sein des frérots de la Vega, tu nous as parlé de la santé mentale. Mmh. Est-ce que c'est un sujet important pour toi dans le cadre de ta créativité? Ce que je veux te poser comme question, c'est est-ce que parfois tu as des états émotionnels qui facilitent ta création ou pas?
Ah ouais, intéressant. Oui, il y a des états émotionnels, mais je pense que d'être heureux, de me sentir excité vraiment comme un enfant, ça m'aide à créer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
J'ai l'impression que parfois dans la même journée, je peux avoir un état physique de vraiment de abuelo, de papy, où genre j'ai pas d'énergie, et il suffit qu'il y ait un déclic, que tout s'axe, que tout s'aligne, et je deviens un enfant de 5 ans avec un gaz, avec une énergie où il n'y a pas de limite. Et donc j'ai besoin de ce truc là, cette petite flamme, ce petit rayon de soleil là, qui m'appelle. Et c'est souvent la joie, c'est souvent l'excitation, l'insouciance qui est quand même le moteur, ouais. La découverte aussi. J'adore ce truc d'aventurier. D'ailleurs, quand je voyage un peu, c'est ce que je cherche à chaque fois. Je veux pas aller sur la plus belle plage, je veux aller sur la plage que personne ne connaît. C'est toujours ça qui m'attire. Et avoir un petit périple. Et si c'était un petit peu dangereux ou un petit peu interdit, c'est encore mieux.
Je voulais aussi te faire réagir, Flo, sur ta capacité à matérialiser les choses. En discutant avec toi, en voyant un petit peu voilà, ta vie, ton œuvre, on se rend compte qu'en fait, on a l'impression que tu as eu plein de vies. T'as fait du foot, t'as été maître nageur, t'as fait STAPS, après t'as pris la guitare, en 4 ans, boum, t'as un contrat en major, tu fais des tournées, ensuite t'es intéressé par la permaculture, vivre dans la nature, boum, incroyable, et là encore, t'as écrit un livre, enfin, comment tu fais en fait?
J'ai aucune idée du comment. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un basculement, il y a eu un moment où tout s'est aligné. C'était le jour où j'ai décidé que j'allais commencer la guitare. J'allais arrêter d'avoir peur de m'exposer. J'allais faire face à la peur qui m'avait terrorisé jusqu'à 20 ans, qui me malmenait vraiment, qui me rendait malade. Et il y a eu ce départ. Et après ça, c'est juste, j'ai l'impression, j'ai une idée, j'ai un truc qui vient en moi et c'est dire, on va le faire. Et en fait, c'est tout. Il n'y a pas de... Non, mais peut-être... Non, on y va, c'est simple. Et il y aura un défi. À chaque fois, il y aura un truc à apprendre. À chaque fois, il va y avoir une galère. Mais dans tous les cas, il y a pas de problème, on y va. Et j'avoue, j'ai énormément de chance. Je matérialise énormément de mes rêves, les plus petits, ceux que je partage aux gens, mais ceux de ma vie intime aussi. Et j'écris tous les matins, comme depuis quelques années maintenant, je vide un petit peu mes pensées, je m'analyse... J'aime beaucoup passer du temps à me checker, à avoir des entretiens avec moi-même, à poser mes intentions.
Tu fais un auto-audit de
ouais,
toi-même.
J'adore ça. Ouais. Ça m'aide à clarifier clairement mon mental et justement à laisser l'accès, la possibilité de créer ensuite. Et quand je relis les notes, souvent un an avant, je me rends compte que je suis dans la matière de ce que je rêvais. Et je ressens une gratitude et un kiff à chaque fois. C'est impressionnant.
C'est incroyable.
Ouais, de ouf.
de voir un peu le rétro et de se dire que finalement tu vis aujourd'hui tes rêves d'hier et que là tu es en train de créer les prochains rêves.
Ouais, c'est fou. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je suis dans le processus, et ça doit arriver à plein de gens qui créent, j'ai toujours la sensation d'être à la bourre, de galérer, de pas y arriver, d'être lent, d'avoir encore des barrières qui m'empêchent. Le livre, j'ai mis des années à le faire juste parce que j'avais peur, alors que tout était en moi déjà.
Tu peux nous en parler de ce livre ?
Ouais, on peut en parler carrément. Ça s'appelle « Sur le chemin des rêves ». Et ça vient un peu compléter les images que j'avais envie de transmettre au travers des chansons de Rêveur Forever, qui était le premier album. C'était vraiment un projet complet pour moi. J'avais conçu les chansons un peu comme une bande originale dans mon esprit. Et donc, c'est un espèce de récit autobio-fantastique. Et au départ, j'avais des visions, j'ai eu des petits poèmes qui sont apparus. J'avais un monde un peu imaginaire, parallèle, avec un avatar que j'ai dessiné. Et ça a commencé avec un truc très visuel, et puis ça s'est transformé en une espèce de livre où je raconte que j'ai fait un rêve, que j'ai eu une vision dans un monde un petit peu parallèle, qui ressemble au monde que je côtoie et que je visite quand je crée, tu vois. T'es dans un monde parallèle un petit peu, tu côtoies des choses. Et j'utilise un petit peu cet univers-là pour retracer tout ce périple initiatique et tout ce que j'ai traversé et compris depuis, un peu depuis les frérots au final, parce que c'est là que l'éveil a commencé pour moi. Un peu, j'ai l'impression que je l'ai fait un peu pour faire un récap sur moi-même et dire « Ok, j'en suis où ? Qu'est-ce que j'ai compris ?»
Et qu'est-ce que t'as compris ?
Qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris que je n'avais rien compris. Et qui s'échappe. J'ai compris que c'était sans fin. J'ai compris que cette quête dans laquelle je me suis lancé, qui est de savoir qui je suis, ça ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est génial.
Je trouve ça très beau quand t'as dit, tu sais, moi j'aime beaucoup la langue des oiseaux. Mm-hmm. T'as dit, c'est une quête sans fin, c'est sans fin. Et j'ai vu les 100 fins comme le chiffre, 100 fins qui se sont ouverts comme ça, comme un éventail. Est-ce que ça t'arrive de recevoir soit l'inspiration, soit des idées au travers de tes rêves ?
Ça m'est arrivé de recevoir, ça m'est arrivé de visiter et de faire des rêves avec des messages, ouais. Sauf que je n'arrive jamais à les matérialiser ensuite. Je les oublie. Et j'ai pas eu la rigueur, j'ai jamais mis en place la rigueur pour me focaliser sur mes rêves nocturnes. Et c'est bien dommage parce qu'il y a souvent énormément d'infos. J'ai souvent l'impression que les infos que je reçois, celles dont je me souviens en tout cas, c'est des infos qui viennent me rassurer ou qui viennent me dire « t'es sur le bon chemin ». Tu vois, j'ai souvent des trucs très symboliques de floraison qui apparaissent moi dans mes rêves. Où je suis dans un décor, souvent c'est le décor de l'enfance, et il y a des fleurs qui créent, qui naissent et qui poussent de partout. J'ai souvent ce genre de rêve.
Floraison.
Totalement. Waouh, j'adore.
Tu sais, c'est la relou qui analyse tout en langue des oiseaux et qui s'arrête jamais. Raison. L'univers des rêves, c'est super important pour toi, dans ton imagerie. On le retrouve dans le titre de ton futur livre qui sortira fin octobre. Qu'est-ce qui se passe d'après toi quand on dort ?
J'ai aucune idée. J'ai lu des choses dont je me souviens un peu, mais ce que j'avais lu, ça m'avait plu. Je crois que c'était dans une vision chamanique qui disait que la nuit, c'était le penchant du jour, et qu'en fait, c'était deux réalités qui ne faisaient qu'une. Et je me souviens plus exactement, mais en gros, la journée, on rêve au travers de la conscience, et c'est le mental qui nous donne l'illusion d'eux, et la nuit, ça serait l'inverse. J'avais adoré. Et du coup, c'est pour ça que certains chamans, enfin, en tout cas, la branche toltèque, puisque c'était ce que j'avais lu, pratiquaient les rêves lucides, et allaient chercher des infos. En fait, c'est comme si on vivait à moitié, selon eux. Alors qu'en fait, on peut vivre la nuit aussi et aller explorer les mondes immatériels, comme ils disent. Ça, c'est passionnant, un peu flippant aussi, j'avoue. Il y a un côté, l'inconnu fait peur de ouf, et j'ai pas creusé plus que ça.
Ce qui est assez fascinant avec l'univers du rêve, c'est que la science moderne actuelle ne sait absolument rien.
C'est énorme. C'est fou.
Je trouve ça génial. En fait, c'est pratiquement la moitié de notre vie, tu vois, dans cet état-là, et on sait rien.
Spiritualista.
J'aimerais qu'on parle, Flo, aussi, de la solitude.
Yes.
Est-ce que la solitude, d'après toi, c'est une alliée pour créer?
Alors, ouais. Pour moi, la solitude, c'est comme la liberté. Ça va avec. La liberté et la solitude, c'est mes deux alliés pour la créativité. Et même, en allant plus loin, pour le chemin d'éveil spirituel. La solitude, à un moment donné, en tout cas, dans mon parcours, ça a été essentiel pour savoir, en fait, qui je suis réellement. Pour être seul avec toi-même, pour savoir qu'est-ce que t'aimes, en fait. Parce qu'on est tout le temps... On est tout le temps un petit peu parasité, c'est négatif, mais on aime les gens autour de nous, tu vois, mais nous, on est des parasites pour les autres et les autres sont des parasites pour nous. On vibre constamment et on ne connaît pas notre propre vibration. On ne sait pas quelle couleur on est, on ne sait pas quel dessin on est. Et la solitude te permet de déployer ces couleurs et ce dessin et dire, ok, ça c'est mon île. Dans le livre, je parle beaucoup de cette idée de, à un moment donné, il faut sauter et aller rejoindre sa propre île pour créer son univers. Et une fois que tu as créé son univers, le défi, c'est de créer les ponts pour que les autres puissent venir te visiter. Ils disent, ok, c'est ça mon game. Okay. Maintenant, je ne pourrai plus me laisser contaminer, parasiter. Donc la solitude, c'est ce que je recherche. Enfin, c'est pas ce que je... Pendant longtemps, je l'ai recherché. J'avais la sensation de ne jamais en avoir assez. Aujourd'hui, je traverse une époque de ma vie où je suis beaucoup seul, parfois avec mon fils. Et c'est génial. On découvre plein de choses avec la solitude.
Qu'est-ce que tu as découvert au travers de la solitude ? Sur toi ou sur le monde ou sur... Tu vois ?
J'ai découvert que j'étais mon meilleur ami, que j'étais mon meilleur compagnon. Quoi. Je pouvais compter que sur moi, en fait. Et que moi qui peux me donner l'amour dont j'ai besoin. En fait, je crois qu'on vit seul, en fait. On a l'illusion d'être avec les autres, d'être connecté. En fait, on vit dans notre bulle tout le temps. On vit au travers de nos projections, on vit au travers de nos... peur de nos croyances, même si on essaie de les balayer, elles persistent, elles sont là, qu'on est seul avec nous-mêmes tout le temps. Et ça m'a aidé à m'aimer de beaucoup plus, quoi, à avoir une relation avec moi. Père, câline, tu sais. Souvent, justement, en regardant un peu l'enfant à l'intérieur, celui qui a peur, tu sais. Ça m'a aidé aussi à être plus authentique devant les gens. Parce qu'en fait, ça y est, une fois que tu as passé du temps avec toi, que tu te transfères face à un individu. Bien sûr, il y a toujours des mécanismes inconscients qui vont revenir s'activer parce que quand on s'éveille, on ne sait pas toujours mettre en place cette authenticité tout le temps. Mais ça m'a permis de me libérer, d'être authentique, de savoir qui je veux être, qui je ne suis pas.
Par rapport à la solitude, ça me fait penser à un des premiers épisodes que j'ai dû faire pour Spiritualista dans la saison 1. Par rapport au fait que tu dises que on est toujours seul et on a l'illusion d'être accompagné.
Ouais.
Ça me fait penser à une idée que j'avais développée. C'était finalement, que deviennent les gens que j'aime quand ils sont pas sous mes yeux ?
Est-ce qu'ils existent vraiment ?
C'est ça. Genre mon lieu de travail quand j'y suis pas.
Ouais.
Ça se trouve, il existe que quand j'arrive là, que je le vois, il est dans mon champ de vision. Et pareil pour les gens.
C'est quantique, ça, c'est un peu la physique quantique, ouais.
Et c'est vrai que c'est assez bouleversant, en fait.
C'est bouleversant. En fait, on ne comprend pas l'idée. J'avais lu un truc comme ça, c'était de la physique quantique. C'est aussi une vision chamanique qui disait que, oui, quand tu penses à ta chambre, tu penses au bureau, à ton lit dans ta chambre. Et donc, tu le crées, mais tu le crées dans ton imaginaire. Il n'existe pas. Il n'y a que toi qui le crées. Et rien ne prouve, rien ne peut prouver qu'il existe.
Mmh.
Et l'info, elle est dure à comprendre. Quand tu fais l'effort ou intellectuel ou de te déplacer, tu fais, oh, putain, c'est vrai. Tout est une illusion.
Et oui, puis c'est cet exercice hyper troublant aussi d'avoir la capacité de voir les yeux fermés.
Oui. C'est magique en même temps ce pouvoir qu'on a.
Ouais.
Moi, c'est ça qui nourrit mes rêves. Mes rêves partent toujours d'une vision. Je dessine. Je vois un truc, poum, je le dessine. Je fais des croquis partout. Et c'est magique. On a un pouvoir de ouf pour matérialiser les choses, de tout. Je le mets là, mais ça se trouve, il est là. Je sais même pas où il est, ce truc qui crée de l'image.
Peut-être que pour toi, c'est complètement naturel comme inspirer et expirer, et que tu as cette capacité, tu vois, vraiment simple et intuitive de faire descendre dans la matérialité tes rêves. Mais est-ce que tu aurais, par exemple, un conseil à donner à quelqu'un qui a des rêves, qui a un rêve, une envie, un désir, et qui ne sait pas par où commencer ?
En fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé par faire sans rêver. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la musique et à jouer de la guitare avec aucun rêve.
Par pur kiff.
Ben ouais. C'est le jeu, le point de départ. Et aujourd'hui que j'ai fait du chemin, c'est là que c'est difficile. C'est parce que maintenant, je mentalise tous mes rêves. Je veux les maîtriser, je veux les façonner. Et c'est là que je mets du bordel. Et j'essaie constamment de me dire, reconnecte-toi au jeu. Rien n'est si sérieux. Il faut juste s'amuser et tu verras, ça sera toi, c'est tout. Et souvent, moi, c'est ça mes gros défis. C'est de faire les choses d'une façon la plus authentique, en me connectant au jeu.
Réussir sans faire exprès, est-ce que ça te parle ?
Totalement. Moi, j'ai la sensation que c'est ce qui s'est passé. Enfin, à moitié. On fait toujours exprès dans le sens où la porte qui s'ouvre, elle s'ouvre peut-être par hasard, mais le pas, c'est nous qui le faisons, personne d'autre. Donc, on va la chercher.
Quel rapport t'as avec tes créations, avec tes chansons, avec tes poèmes, avec le lieu que tu as designé, voilà. Quel rapport tu entretiens avec tes créations?
Ça dépend de la création, j'ai des rapports très différents. Les chansons, par exemple, pour moi, c'est des amis, ça m'accompagne. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire une chanson, souvent, parce que la mélodie vient parfois toute seule. Et je peux passer des mois à juste m'amuser à chanter cette chanson. Et dans mon esprit, je sais qu'il va y avoir une chanson qui sera façonnée, qui sera partagée aux gens. Mais je la garde des mois et des mois avec moi. Et quand j'ai envie de chanter, je la chante en boucle. Et ça me met juste dans une énergie de joie, où je me dis, quelle chance j'ai. Voilà, je suis avec moi-même, je kiffe, je m'amuse. Ça, c'est vraiment génial. Et après, avec le lieu que j'ai créé, avec tout ce que j'ai mis en place, que j'ai matérialisé, c'est pareil, c'est juste coucher de soleil, tu te pointes, tu te prends une chaise, tu t'installes et tu regardes et tu dis c'est ça que je voulais, je l'ai quoi. Quelle chance quoi. Quand tu as fait un dessin et que ce que tu as matérialisé, c'est le dessin, tu dis mais il reste plus qu'à le partager. Et c'est souvent ça en fait qui crée ce que je suis et ce que je veux être. C'est qu'en fait, être tout seul avec ça, c'est génial pendant un certain temps. Et à un moment donné, c'est bon. Je vous invite parce que je veux que vous voyez ce qui me fait kiffer.
Ouais.
Et peut-être que ça vous fera kiffer aussi.
Quand tu expliques que tu as ce petit bout de mélodie avec ce phrasé, que tu le répètes, ça m'a fait penser à une image qu'Omran Mikhaïla Ivanov utilise souvent. Il dit que dans la graine, il y a l'arbre. Et j'ai cette impression que c'est comme si tu avais la graine, tu vois,
ouais.
Et que tu as besoin de voilà, la garder, la faire germer tout doucement, respecter un certain rythme organique, comme si tu es tellement connecté au vivant, à la terre. La terre, c'est un organisme vivant,
ouais.
Voilà, c'est une entité à part entière. Et que du coup, ta création, finalement, est devenue un peu anthropomorphique,
ouais.
Tu vois, comme une plante, un arbre fruitier.
Il y a ça, il y a beaucoup de ça. Il y a aussi, je crois, la difficulté à faire le deuil de la fin d'un rêve. Et j'ai juste pas envie de lâcher. Comment dire, quand je crée une mélodie, quand la mélodie vient à moi, c'est toujours de l'improvisation. C'est toujours quelque chose qui est descendu, où j'ai pris un chemin et j'ai laissé faire ma voix. Je suis passé par des notes qui ont fait gang, j'en ai mis dans tous les sens. La moitié était à côté et à un moment donné, je chope un truc. Et ce truc, tout simplement, je me dis, je m'y sens bien dedans. Et ça me procure du bien-être. Et donc, je m'amuse, je nage avec, je surfe dessus. Et ce bien-être que je ressens, je veux plus qu'il me quitte. Je veux le vivre toute ma life. C'est ça que je veux être aligné. Pour moi, c'est ça. Et souvent, j'ai du mal à transformer ce bien-être, cette vibe pure, et l'amener vers une chanson. Parce que je sais qu'après, il y a un travail qui va être plus mental, qui va être plus de... Alors, il faut choisir les bons mots, puis après, il y a l'enregistrement. Et il y a souvent ce deuil qui est dur, où je préférais la chanson à la base qu'à la fin, quand je la prête aux gens. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai fait durer. Je voulais garder, tu vois.
Dès qu'il s'agit de création, surtout de création artistique, on a vraiment l'impression que c'est une mise à nu, quelque part. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont cette fibre, voilà, le créateur en eux demande qu'à s'exprimer, mais il y a cette appréhension du regard de l'autre, de ne pas faire assez bien, de débuter, et du coup, ben, débutant en fait, et c'est normal. Est-ce que tu trouves que finalement, dans n'importe quelle démarche artistique, ce qu'on peut attendre de l'artiste, c'est pas forcément d'être bon, mais d'être vrai dans ce qu'il fait?
Ce serait tellement beau que chaque artiste soit dans ça. Je pense que c'est le cas. La musique mainstream, la radio, la télé détournent un peu le truc, parce que c'est vrai que ce qui est mis en avant, c'est pas que ça. Je pense que dans le mainstream, il y a des gens qui sont alignés totalement. Je pense à Julien Doré, vraiment, c'est quelqu'un que je crois qu'il est aligné, quoi. Le gars, il fait tous ses délires. Il les fait, il y va, et il kiffe, et ça, il a l'air de vraiment d'être bien. Et c'est vrai que c'est pas évident, je sais plus ce que tu disais, pardon.
Oui, le fait de pas chercher à être bon avant de faire écouter des choses, mais juste se dire, écoute, là, je suis vrai, je suis authentique, je suis moi-même.
Ben, moi, c'est marrant, mais c'était plus simple pour moi d'être authentique au début. J'assumais d'être totalement frais, nouveau. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ce côté, il a réussi. Maintenant, on va l'attendre au tournant, quoi.
Aïe, aïe, aïe.
Montre-nous, parce que en fait, t'es peut-être un escroc, en fait. C'est peut-être vrai ce que tu pensais au fond de toi. Et ça, c'est un peu dur. Et c'est pour ça que je pense, au final, ce qui te ramène au vrai succès, c'est de dire, je suis aligné sur moi, là. Je suis aligné sur moi, je suis allé au plus proche de mon authenticité. Je dis au plus proche parce que c'est très dur d'être totalement authentique dans la créativité. Il y a toujours à un moment donné un petit compromis, un petit truc qui fait que tu te déplaces, tu modifies ce que tu allais faire. Et parfois je me dis, si je devais recommencer un projet en étant inconnu, je ne ferais pas du tout la musique que je fais.
C'est vrai, tu ferais quoi?
Aucune idée. Je ferais autre chose. Je ferais une musique peut-être plus expérimentale. Peut-être que j'oserais être plus authentique. Peut-être que j'irais plus dans des délires méditatif, des trucs un peu tribal. Et peut-être que le fait d'être connu, d'avoir déjà une identité pour les gens.
Un certain public, formatage dans l'inconscient collectif, ouais.
Mais j'ose pas sortir de ça. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs qui viennent. Mais je pense que je suis sur un chemin de libération, comme on en parlait tout à l'heure, et que je vais y arriver à ça. Je vais à un moment donné. Moi, je considère que je fais des bouts de création. Là, je fais ça, j'ai fait un livre, j'ai fait un truc, mais je vais continuer de faire des... Et plus ça va aller, plus je serai authentique, plus je serai proche de moi. Et peut-être qu'il se passe un truc magique le jour où t'es totalement toi, tu vois, je sais pas. Pff, tu te transformes.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, et ça sera une des questions de la fin, Flo, de toucher un instant de grâce, un moment mystique sur scène? Ou en train de créer, voilà, un moment extatique, hors du temps.
Créer, pour moi, c'est tout, très souvent ça. C'est tout, très souvent un instant de grâce, sauf que c'est en solitaire. Et que clairement, le collectif t'amène à d'autres sphères. Moi, ce qui m'a amené à des états comme ça, c'est d'être sur scène et d'être dans le don total et le relâchement total. C'est une expérience qui est ouf. Parce que tu te dis, enfin je sais pas, c'est comme si je me dédoublais. Des fois je sortais, j'avais l'impression de sortir de mon corps. Je me voyais bouger, danser, je me disais, mais c'est toi ça mec? C'est une version de toi ça? Et de suivre le flow de... Je me transforme vraiment quand je montais sur scène à l'époque, parce que je monte plus trop en ce moment. Et c'était toujours une surprise, je savais pas où j'allais quoi. Même dans l'expression avec les gens, j'étais tout le temps dans l'impro. Et quand tu suis ces chemins d'impro et que tu vois que ça réagit, que tu as réussi à... de rien, à faire rire 10, 15 000 personnes.
À fédérer.
Mais c'est magique.
Ouais.
Je te dis, mais je suis exactement là où je voulais être. Et quand en plus, tu as la communion autour de chansons qui ont touché les gens, et qui a l'enjeu, qui a l'émotion, qui a un espèce de cocktail comme ça, ouais, il y a la grâce, il y a l'émotion, j'ai pleuré sur scène alors que je...
Ouais.
Et ça, c'est fou, ouais. Ça, c'est un truc inexplicable.
C'est passionnant, et j'aimerais aussi te faire réagir sur un truc, parce que J'ai eu l'expérience de la scène, mais vraiment à une échelle toute petite. Genre, tu vois, faire du stand-up dans une salle face à 100 personnes. Mais quand on te renvoie des rires comme ça, j'avais cette sensation d'être en combustion spontanée, moi, sur scène. Mais vraiment. Et genre, je me suis dit, OK, 100 personnes ont cet effet-là sur moi. Oh, comment ils arrivent à gérer, justement, cette capacité-là? Et quand j'ai arrêté cette... J'avais une petite... jouer 2-3 fois par semaine. Et quand ça s'est arrêté, j'étais en down ouf.
Dépression.
C'est de la drogue, en fait, ce qu'on ressent, là, cette décharge d'amour et de joie qu'on reçoit.
Totalement.
Comment tu gérais ça, toi?
Cette époque-là, j'avais pas trop de temps de gérer, mais cette dépression, je l'ai vécue, celle que tu racontes. Et c'est très compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas en fait exactement ce qui se passe. On est piégé un peu parce qu'on se dit, ben, il faut recréer tout ça alors. Sauf que recréer tout ça, c'est exceptionnel. 100 personnes, à la limite, on peut peut-être plus le gérer, le recréer. Mais quand on a 15 000, c'est une folie réussir à réunir autant de gens. Et moi, mon problème, c'est que c'est mon seul repère. J'ai eu, bien sûr, on a fait les 100 places, 1000, 500, tout ça. Mais très vite, on est monté là-haut. Et je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné aussi. Je sais qu'il y a un côté piège dans la scène. Il y a ce côté... ça brûle un peu. Tu ne sais pas comment te positionner. Tu sais, c'est très bizarre.
Mais oui.
Mais ce que tu racontes, c'est ultra puissant, c'est clair. Mais 100 personnes, ça a une autre puissance. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pas 10 000, c'est plus puissant que 100. Mmh. Pour moi, 100, il y a une intimité qui crée une autre puissance. Parce qu'après 10 000, tu fais le show, c'est plus pareil, t'es moins à nu. Tu te la racontes, tu vois.
Oui.
Le mec, il fait boum avec la batterie, toi, tu lèves le bras au même moment, tout le monde fait waouh, wow,
c'est de la
tu
machine.
Tu fais ça à 100 places.
Oui.
Ils vont faire, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il lève le bras
c'est
comme
ridicule.
Ça? Tu parles la même gestuelle.
Ouais.
Mais la puissance que tu dois dégager quand tu es face à 100 personnes, elle est d'un autre ordre.
Mmh.
Et pour moi, c'est aussi puissant. Ça peut t'élever et t'amener très haut aussi.
Ouais.
Et même avec une seule personne au final.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr, totalement.
Quand tu sens que tu parles à quelqu'un, qu'en face, il y a un intérêt, que ça réagit, que tu fais rire, tu te sens trop bien.
Mais
fait.
Bien sûr.
C'est trop cool.
Ouais. Genre, t'as gagné.
Oh. Mais ouais, tu dis, ah, yes. Un constat en fait que j'ai fait, comme je suis sur un chemin de découverte de qui je suis, j'évolue constamment. Et dans ce rapport au public, aux médias, il y a tout le temps le décalage qui se crée. C'est-à-dire que là, pour les gens, on va dire les grands publics, ceux qui me connaissent, ceux qui ont un peu suivi, je suis le gars de la forêt, l'écolo. Mais c'était il y a 5 ans déjà. Tu vois, j'ai fait 15 steps depuis.
Ouais.
Et ces 15 steps, ils m'ont amené à découvrir un truc, et j'en parle un peu dans le livre justement. L'idée que le rêve, le plus grand rêve en fait que moi je veux incarner, c'est juste savoir qui je suis. C'est juste ça en fait. Et tout le reste, c'est des prétextes à savoir, à découvrir qui je suis. Quand je me lance dans des grands rêves, aujourd'hui je sais que je n'attends pas un résultat du rêve. J'attends la transformation. Je vois la transformation qu'il va y avoir. Je vois qui je vais devoir devenir. Et c'est ça en fait pour moi le chemin de la création, de la spiritualité. C'est créer des rêves, créer des prétextes pour se découvrir, grandir, tomber, se retrouver, et c'est sans fin. C'est tout.
C'est magnifique. En plus, on est accompagné par un orage
ouais,
d'été.
Trop beau.
Qui gronde. Je sais pas si vous avez la capacité de l'entendre. Si. C'est chouette. J'adore cette idée d'être en constante exploration de soi-même ouais. Au travers de tout, finalement.
Tout est source de leçons, d'apprentissage. Très cliché la phrase, mais c'est vrai. Et cette idée du funambule, j'aime beaucoup l'idée du funambule. Tu sais que philosophiquement, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait trouver l'équilibre. J'étais persuadé que c'était ça, mon défi. Et en fait, j'ai compris qu'on ne trouve pas l'équilibre, on est constamment en train de le chercher. C'est tout. Et c'est un jeu. Tu montes sur ta ligne, tu traces. Et pour moi, cette ligne, c'est le cœur, en fait. C'est la voix du cœur. Et donc, quand tu es sur cette ligne, tu ne tombes pas.
Mmh.
Tu joues, tu t'amuses. Quand tu penches à gauche, tu rééquilibres. Et tu avances. Et c'est une danse, comme ça, un flow. Et ça t'amène à être qui tu es, tout simplement. Et je crois que c'est ça le plus beau des rêves. Et on parle beaucoup de cette espèce de renouveau, le monde de demain. Et j'ai vraiment cru pendant un moment que ça passait par ce truc de « je suis un écolo, je fais tout parfait, permaculture ». Oui, mais c'est minuscule. Je crois maintenant cette facette. Ce que je crois avoir compris, c'est ça englobe tout ça. Ça englobe le féminisme, ça englobe l'écologie, ça englobe tous ces trucs.
C'est super en fait, parce que j'ai vraiment l'impression, Flo, que là, t'es venu du futur, tu vois. Vu que t'as un petit temps d'avance dans ton exploration, que t'as eu le temps, la passion, j'ai envie de dire, les moyens aussi financiers. De vivre ce rêve-là et d'aller au bout de ce rêve-là, enfin d'aller en tout cas au bout de ce que tu étais en capacité d'explorer.
Ouais, complet.
Et j'aime beaucoup parce que là, tu arrives et tu nous dis, bon écoutez les gars, je sais que c'est un rêve qui vous anime, vous êtes pas mal à être animé par ce rêve-là, moi, et tu le sais. Et du coup, le fait d'avoir ton décryptage, ton expertise, tu vois, ton retour sur expérience, ça, bah, je pense que ça nous enrichit énormément. Mm-hmm. Te dire, ah ok, il y a peut-être un autre moyen du coup, mm-hmm. de globaliser ou de rêver,
ouais.
à cette vision.
Je crois que c'est ça, c'est de trouver, trouver qui tu es. Pour être plus concret, c'est quoi ton talent, c'est quoi le truc que t'aimes le plus faire au monde. C'est juste ça, fais mm-hmm. ça. Et si t'as envie de jardiner à côté et de créer un jardin en perma et d'acheter, mais bien sûr, fais-le. Moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce chemin. C'est juste que mon focus, il a été radical et trop extrémiste. Et je me suis dit, je vais être uniquement ce mec décroissant qui foque le système, qui est autonome, qui crée son alimentation. En fait, je me suis mis une exigence immense. Ça m'a fait du mal. Je suis tombé un peu en dépression, entre guillemets, tu vois. J'ai l'air triste parce qu'en fait, je m'étais juste décalé de qui je suis réellement. J'étais centré par rapport à un choix de vie, à une éthique, à une philosophie. Mais au bout d'un moment, c'était... Il n'y a rien qui m'anime là. Ok, j'adore, je suis au jardin, je suis centré, je suis dans la nature, je suis en phase. Mais le feu, il s'éteint.
Est-ce que tu penses que parfois, on est piégé dans le rêve des autres et qu'on a l'impression que c'est les nôtres ?
Total. Totalement. Et justement, dans l'évolution, on passe plusieurs rêves des autres, tu vois. Et je pense qu'on passe par le rêve qui est un peu plus conscient de celui dans lequel tu étais. C'est comme si c'était une pyramide de rêves inconscients, tu vois. Et que tu as le rêve basique, la matrice la plus dense de laquelle on vient tous. Et puis j'avais l'impression d'être passé dans le monde des bons. En fait, j'étais juste passé dans un autre égrégore, qui était celui des écolos, du New Age. Mais c'est encore un inconscient. Et tu peux aller encore au-dessus. Et tu peux aller encore au-dessus. Et quand tu arrives en haut de cette pyramide, en fait, il n'y a que toi. Tu es tout seul. Et c'est un peu incroyable. Ça que je traduis dans le livre, tu vois. Tu es sur ton île, en fait.
Oui.
Et tu n'as pas d'autre choix que d'être, de construire qui tu es, de construire ta pensée, de te dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, moi, j'aime beaucoup maintenant me dire, je sais pas. Plutôt que dire...
Ouais.
De répéter les concepts ouais. qu'on entend.
Bon, moi, j'adore m'apparaître, c'est « il y a une théorie qui... » Mais tu sais, c'est... J'aime beaucoup, en fait, ta façon de raisonner. Et genre, j'ai eu un flash là dernièrement. Je ne follow pas Kim Kardashian sur Instagram, mm-hmm. mais parfois, je vais regarder ce qui se passe là-bas. Et j'ai eu un flash, je me suis dit « oh !» En fait, Kim Kardashian, c'est l'algorithme en fusion
wow.
de tous les fantasmes du masculin sur Terre. Tu vois, l'orage valide.
La vidéo. Elle est l'algorithme
c'est
aussi
l'algo.
De toutes les gamines, j'allais dire.
De tous les rêves, de tous les fantasmes.
Qui imitent.
Ouais, aussi.
C'est comme si elle était le noyau.
C'est ça.
Et c'est fou, c'est fort d'être ça.
Et j'ai vu ça et je me suis dit, bah, c'est ouais. énorme. Kim K, c'est l'algo.
Et c'est qui le
programmateur?
Ouais.
Ah,
non, mais il y en a d'autres algos comme ça, conscience, New Age. Est-ce qu'on a un référent nous qui pourrait nous?
Ah, nous?
Ben ouais, nous les,
nous
les,
notre... nous, nous les, nous les, nous les perchés, nous les spirituels, nous les cœurs tendres.
Non, en fait, c'est nous avec nous-mêmes.
Ouais, en fait, on essaye de.
Moi, j'y crois beaucoup à ce truc de collectif aussi, de toute façon. Et c'est pour ça que j'ai aussi compris que je devais revenir dans la lumière. Parce que c'était nécessaire pour mon bien-être, pour le feu intérieur, pour la créativité. Et avec cette idée que la vibration que je ressens, que je vis, que tout ce que je comprends, je peux le traduire. Et sans dire aux gens, j'ai compris, écoutez-moi, ou j'ai trouvé, juste en faisant de l'art, en faisant passer de la vibration, des couleurs, ça peut réunir les gens.
Bien
Quand
sûr.
Tu réunis les gens, c'est là que tu crées cette magie, ces égrégores, tu vois.
Mais oui.
Et c'est pour ça que j'ai encore le rêve de remonter sur des grandes scènes. Parce que je sais que ça peut être incroyable ce qu'on peut créer
ouais.
en collectif, ça peut être ouf.
Et connaissant vaguement ton pouvoir de matérialisation, j'ai envie de te dire que bon, ça sera dans pas longtemps.
Non, là j'avoue, je sais pas. Je fais vraiment confiance aussi à la vie. Je crois qu'il y a des chemins et que parfois faut pas y revenir. Je me dis que peut-être c'est plus mon chemin de repasser par la case zénith. Tu vois, tous ces trucs.
C'est un peu comme ressortir avec son ex, ce serait comme manger
ouais,
son propre vomi, quoi.
En fait, je veux pas me créer de frustration. Je sais que j'ai envie de réunir les foules. Je sais que c'est un truc qui m'excite, qui me.
Ouais.
J'ai vu un truc de fou.
T'as vu l'éclair?
J'ai vu un rayo.
Ouais.
Un éclair de ouf juste derrière la Sagrada.
Un éclair de génie.
Magnifique.
Merci Flo, merci d'avoir ouvert cette saison 3 de Spiritualista avec toute ton authenticité, tout ton flow. Merci mille fois.
Merci à toi.
Et on a hâte de lire ton livre qui sortira fin octobre.
Yes.
J'en reparlerai sur Instagram. Trop et cool. Je te souhaite plein d'intuition.
Merci à toi.
Et plein de rêves.
Yes, merci.
Spiritualista.
Voilà, c'est tout pour cet épisode de Spiritualista. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer avec Flo de la Vega. Le livre de Flo sortira le 25 octobre aux éditions Jouvence. Il a pour titre « Sur le chemin des rêves ». J'ai eu la possibilité d'en voir quelques pages et franchement, bah, ça a l'air de déchirer. C'est un livre de développement personnel et spirituel et je pense que ça va vous passionner. Et vous avez déjà la possibilité de pouvoir le précommander sur les sites comme la Fnac, Amazon et Tutti. Et au fait, prenez soin de vous, de vos énergies, de vos vibrations et surtout, restez à l'écoute de vos émotions. À dans 2 semaines!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.